La grâce, la miséricorde et la paix vous sont données par Dieu notre Père. Quelle que soit votre foi ou votre absence de foi, bien sûr, comme un don de son amour. Quelle que soit votre espérance, vos révoltes, vos doutes, vos interrogations. Nous nous présentons ensemble devant le Seigneur notre Dieu avec le premier chant que vous trouverez dans le petit livret liturgique qui est au début du psautier français. Alors c'est un nouveau livret, bien sûr, puisque nous entrons avec les autres églises chrétiennes dans le temps de l'Avent. Alors on le remarque avec les cierges qui ont été posés par quelques-uns sur le piano pour annoncer, voilà, cette avancée vers le temps de Noël. Donc réjouissons-nous au Seigneur. Éternel, c'est toi qui es Dieu, et il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Nous sommes le peuple dont tu es le berger, nous sommes la famille à qui tu as donné la vie. Et toi, tu es la source ultime, tu es Dieu, tu es notre Dieu. Alors je vous propose de poursuivre dans la louange avec le psaume 138, toujours dans le psautier français, « Que tout mon cœur soit dans mon chant », les trois premières strophes de ce psaume 138. Vous pouvez prendre place. Et après avoir ainsi accueilli, si je puis dire, la présence de ce Dieu qui nous a précédés, Je voudrais vous souhaiter chaleureusement la bienvenue à chacune et chacun d'entre vous pour ce dimanche. Merci vraiment d'être là. C'est une grande force d'être ainsi ensemble pour chercher l'inattendu qui vient de Dieu, nous ouvrir à sa présence surprenante. Alors bienvenue à Samantha qui a demandé à recevoir le baptême. Alors j'espère qu'elle n'écoute pas, mais je vous promets, ce sera un grand moment pour nous aussi, car elle est extraordinaire jeune femme. Un grand merci à Denis Guénoun, le professeur, l'ami, le frère, qui a accepté de nous donner donc, la prédication ce matin. Alors beaucoup de professeurs n'acceptent pas de faire la prédication, parce que c'est un exercice différent, un exercice qui est plus personnel, plus engagé, et donc ce n'est pas un exercice forcément très facile pour un professeur. Donc c'est un changement de registre qui est... Donc merci beaucoup Denis, c'est un grand cadeau. Voici ce que Jésus-Christ nous propose de vivre selon l'Évangile. Écoute le Seigneur, notre Dieu, c'est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. C'est là le premier et le grand commandement, nous dit Jésus, et voici le second qui lui est semblable, nous dit-il. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun commandement n'est plus grand que ces deux-là. Et avec ce psaume de David, nous nous tournons vers Dieu pour lui demander son pardon et son aide. Écoute, Éternel, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. Alors c'est ta face, ô Éternel, que je cherche, ne me la cache pas. N'écarte pas ton serviteur avec colère, tu es et tu seras toujours mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu, mon salut. Même si père et mère m'abandonnaient, l'Éternel me reçoit et me garde. Montre-moi ton chemin, ô Éternel. Conduis-moi par des routes sûres malgré ce qui me guette. Ne me livre pas à la merci de l'adversaire. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère l'Éternel, sois fort. Prends courage, espère l'Éternel. Que chacun reçoive directement de la part de Dieu de naître et de grandir par le Créateur de la vie. Lève-toi et va, nous dit Jésus-Christ. Ta foi t'a sauvé, avance dans la paix. Nous chantons à Dieu notre reconnaissance. pouvez prendre place, sauf Samantha que j'invite à venir me rejoindre avec grande joie. Donc nous ne vous accueillons aujourd'hui. Vous avez demandé le baptême, ce signe de la grâce, de l'amour de Dieu pour vous, en particulier Samantha. Alors vous le savez, non seulement par l'intelligence, par la tête, mais par votre existence, par votre expérience, Dieu était déjà là auprès de vous avant même que vous le cherchiez, et rien ne vous privera de cet amour, ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni celles à venir. Ce Dieu vous dit, Samantha, tu es ma fille bien-aimée, tu fais ma joie et mon espérance. Nous prions Dieu. Ô éternel, notre Dieu, tu as donné ton esprit de lumière et de vie à Samantha. Tu l'as accueillie dans ton alliance, tu lui as donné ta bénédiction. Que ce baptême soit le signe de ses dons. Et qu'avec le Christ, elle devienne jour après jour de plus en plus vivante, de plus en plus source de bénédiction et de vie en ce monde, rayonnante de foi, d'amour et d'espérance. Amen. Alors Samantha, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, Samantha, Dieu vous bénit et vous garde, vous accompagne sur la route de votre vie. Il vous sanctifie. Il vous accompagne sur le chemin de la liberté, de la confiance, de l'amour, de l'espérance. Dieu vous accompagnera, vous soutiendra si vous en aviez besoin. Il vous réveillera s'il le fallait. Il est avec vous, il est pour vous. Il vous conduira sur le chemin de la vie, dans sa paix, sa force et sa joie. Amen. Alors, chers amis, Samantha a accepté de dire quelques mots sur son cheminement, un cheminement de courage, de profondeur, d'humanité, d'humilité et de foi. Donc, je me réjouis beaucoup que vous puissiez entendre sa parole. Donc, merci beaucoup, Samantha.
Bonjour à tous. Alors, je vous préviens, ça va être un petit peu long. Alors, jusqu'à présent, les religions, pour moi, n'avaient aucune visée universelle, c'était des universalismes, et elles étaient source de division, d'intolérance et d'incompréhension entre les hommes. Métisse de par mes origines, puisque j'ai une mère musulmane, je l'étais également par ma foi. J'ai longtemps été influencée par les dogmes catholiques et musulmans, j'ai longtemps pensé que le doute n'était pas compatible avec la foi, et que le seul fait de remettre en cause l'existence de Dieu ne me rendait digne ni de lui, ni de son royaume. J'ai longtemps pensé que mes péchés constituaient un obstacle pour atteindre Dieu, et pourtant, j'ai toujours ressenti un appui inébranlable, une force imperceptible à mes côtés. Ma vie a été parsemée d'épreuves, de joies, de doutes et de peines, comme tout à chacun, évidemment. Mais j'ai toujours eu l'intime conviction qu'une force incommensurable, infiniment bonne, m'accompagnait, et que toutes les épreuves surmontées n'avaient que pour but de me permettre de me transcender dans un sens, et Dieu m'a appris à grandir. Ce passage d'Ésaïe 40.10 reflète parfaitement ce que Dieu m'a toujours inspiré. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiendrai de ma droite triomphante. Ou encore Josué 1.9, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ma foi a toujours été équivalente à un grain de sénévé. Et ce qui m'a séduite dans le message du Christ, c'est que ça lui suffisait et qu'il m'invitait à réfléchir son message et à m'en faire ma propre interprétation. J'ai longtemps été sceptique et encore aujourd'hui, je suis à l'affût d'un signe. À l'instar de Saint Thomas, je voulais un signe mystique, une preuve formelle qui conforterait ma foi, puisque je reste quand même cartésienne. Après tout, il est dit dans Jérémie, « Si vous me cherchez, de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. » Bien que j'ai toujours ressenti la présence du Seigneur, je recherchais désespérément à avoir un lien plus étroit avec lui. Et je ne savais pas quelle église embrasser. Donc sur un ton de défi, un jour, j'ai posé un ultimatum à Dieu. Le sommant m'indiquait quel était le bon texte à lire et que faute de réponse de sa part, je ferais ce que bon me semble et je m'affilierais à aucune religion. Ce jour-là, le Seigneur a été très réactif puisque 10 minutes après, une chrétienne me remettait la Bible dans la rue, m'expliquant que j'avais le droit d'être en colère, que j'avais le droit de confier mes doutes à Dieu et que la Bible, c'était un bon début pour prier. À compter de ce jour, j'ai pu mesurer la grandeur de Dieu, mais surtout sa capacité à influencer positivement les gens pour répondre à nos doutes et nos questionnements. Puisque ce jour-là, cette personne a exactement répété la prière que j'avais faite 10 minutes avant, et ça m'a permis de prendre conscience véritablement que Dieu était avec moi et qu'il m'exaucerait. La lecture du texte saint n'a fait que conforter ma foi. Certains passages me semblant même avoir été écrits pour moi. Je pense notamment à la parabole du fils prodige. Je me sentais un petit peu comme ce pécheur qui revient dans sa maison finalement après avoir péché. Donc c'est à partir de cet instant-là que j'ai décidé d'embrasser la foi chrétienne et que le message du Christ m'a parlé. Ce message est beau, universel, fort, m'a rendu plus empathique vis-à-vis de mes semblables. Je suis désormais persuadée d'une chose, je veux suivre le Fils de l'homme qui s'est sacrifié pour mes péchés, je veux suivre ses enseignements et entrer au royaume des cieux. Le baptême sonne pour moi la fin d'une vie d'errance spirituelle et une renaissance. C'est donc avec une joie immense que je me fais baptiser parmi vous aujourd'hui.
Donc grand merci Samantha, et c'est vrai que voilà un peu un itinéraire effectivement qui est le vôtre. Mais ça peut vraiment nous encourager dans cette confiance à Dieu et puis se préparer finalement à quelque chose qui vienne de lui et qui fasse vraiment franchir des étapes à notre être. Alors maintenant, vous avez préparé une confession de foi qui sera la confession de foi de notre Église ce matin. Donc je vous propose de vous lever pour vous associer du cœur à cette déclaration de croyance chrétienne qu'a préparée Samantha pour nous ce matin.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant et Créateur de l'univers. Je crois que l'Éternel est mon berger, qui est infiniment bon et que je ne manquerai jamais de rien. Je crois que l'Éternel est un Dieu d'amour, de miséricorde et de pardon, et que l'Esprit Saint m'accompagnera tout au long de ma vie. J'ai mis en l'Éternel mon espérance. Je ne demande au Seigneur qu'une chose, habiter sa maison et m'attacher à son temple. Je crois également que Jésus, fils unique de Dieu, est mort sur la croix et ressuscité des morts pour racheter nos péchés et nous sauver. Je crois qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par lui. Je veux devenir une fille de Dieu par la foi et que le baptême unisse au Christ pour toujours.
Grand merci, Samantha. Merci. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Amen. Vous pouvez prendre place. Alors Samantha, vous avez reçu le baptême, signe de l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ. Vous avez répondu à cette grâce par votre foi. Donc nous vous recevons avec grande joie comme membre de l'Église chrétienne, donc avec un E majuscule. C'est donc la large communauté qui, au-delà des générations, au-delà des institutions, au-delà des paroisses particulières, eh bien, est la communauté de ceux qui cherchent Dieu en Jésus-Christ. Nous prions Dieu. Ô notre Père, nous te remercions profondément pour Samantha. Ton amour nous permet de l'accueillir aujourd'hui. C'est un honneur, c'est une joie, c'est une parole qui vient de toi, qu'elle nous transmet. Et donc grande est notre joie, et je le sais, j'en suis persuadé, plus grande encore est la joie dans le ciel pour ce moment de foi, ce moment de confiance en toi, ce moment de connexion avec toi. Bénis Samantha pleinement, ô Éternel notre Dieu, et bénis par elle tous ceux qu'elle rencontrera sur sa route. Que ta joie, ô notre Père, soit aussi notre force. Amen. Lecture du livre de l'Exode, au chapitre 3, versets 1 à 18. Moïse faisait paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père, qui était prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et arriva à la montagne de Dieu, à l'Horeb. Le messager du Seigneur lui apparut dans un feu flamboyant au milieu d'un buisson. Moïse vit que le buisson était en feu, mais que le buisson ne se consumait pas. Moïse dit : « Je vais faire un détour pour voir ce phénomène extraordinaire. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas ?» Le Seigneur vit qu'il faisait un détour pour voir. Alors Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il répondit « Je suis là. » Dieu dit « N'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sacrée. » Il ajouta « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se détourna, car il avait peur de diriger ses regards vers Dieu. Le Seigneur dit : « J'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses tyrans. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter vers ce pays, de ce pays vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel, là où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amorites, les Périzites, les Hivites et les Jébusites. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que les Égyptiens leur font subir. Maintenant, va, je t'envoie auprès du Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Moïse dit à Dieu : « Qui suis-je pour aller auprès du Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites ?» Dieu dit : « Je serai avec toi, et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu : « Supposons que j'aille vers les Israélites et que je leur dise : « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. » S'ils me demandent : « Quel est son nom ?» Que leur répondrai-je ? » Dieu dit à Moïse : « Je serai qui je serai. » Et il ajoute : « C'est ainsi que tu répondras aux Israélites : « Je serai m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse : « Tu diras aux Israélites : « C'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob qui m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour toujours. C'est mon nom tel qu'on l'évoquera de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur : « C'est le Seigneur, le Dieu de vos pères qui m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit : « J'interviens pour vous à cause de ce qu'on vous fait en Égypte. J'ai dit : « Je vous ferai monter d'Égypte, où vous êtes affligés, vers le pays des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Périzites, des Hivites et des Jébusites, un pays ruisselant de lait et de miel. Alors, ils t'écouteront. » Et dans l'évangile de Marc, au chapitre 8, versets 27 à 30, Jésus sortit avec ses disciples vers les villages de Césarée et de Philippe. En chemin, il se mit à demander à ses disciples : « Au dire des gens, qui suis-je ? » Ils lui dirent : « Pour les uns, Jean, le baptiseur. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, un des prophètes. » Lui leur demandait : « Et pour vous, qui suis-je ? »
Pierre lui dit, « Toi, tu es le Christ. » Il les rabroua pour qu'ils ne disent rien à personne à son sujet. Je vous propose de chanter le cantique 289, « Bienheureux qui t'aime », les strophes 1, 2 et 3. Pour accompagner notre prière, je vous propose un poème écrit par le théologien protestant Dietrich Bonhoeffer en prison, dans les prisons des nazis, en juillet 1944, quelques mois avant son martyre. Qui suis-je ? Souvent, ils me disent que je sortirai de ma cellule, détendu, ferme et serein, tel un gentilhomme en son château. Qui suis-je ? Souvent, ils me disent que je parlerai avec mes gardiens aussi libre, amical et clair que si j'allais donner des ordres. Qui suis-je ? De même, ils me disent que je supporterai les jours de malheur impassibles, souriant et fier, comme un homme accoutumé à vaincre. Suis-je vraiment ce qu'ils disent de moi? Ou seulement cet homme que moi seul connais, inquiet, nostalgique, malade, pareil à un oiseau en cage, cherchant mon souffle comme si on m'étranglait, avide de couleurs, de fleurs, de chants d'oiseaux, assoiffé d'une bonne parole et d'une proximité humaine, tremblant de colère devant l'arbitraire et l'offense mesquine, agité par l'attente de grandes choses, craignant et démuni pour des amis dans un lointain sans fin, si las, si vide, que je ne puis prier, penser, créer, n'en pouvant plus, et prêt à l'abandon. Qui suis-je? Celui-là ou celui-ci? Aujourd'hui cet homme et demain cet autre? Suis-je les deux à la fois? Un hypocrite devant les hommes et devant moi un faible, méprisable et piteux? Ou bien ce qui reste en moi ressemble-t-il à l'armée vaincue qui se retire en désordre devant la victoire déjà acquise? Qui suis-je? Dérision que ce monologue. Qui que je sois, tu me connais. Je suis tien. Ô Dieu. Chères sœurs, chers frères, peut-être devrais-je dire adoptif, parce qu'en vérité, je ne suis pas né dans la famille, mais j'ai eu la fortune et la joie d'y être accueilli. Ne croyons pas pourtant que ce mot adoptif introduise une restriction. C'est une bien belle fraternité que l'adoptive, peut-être la plus belle ou la vraie. Les textes anciens que nous essayons d'entendre ici chaque semaine regorgent d'exemples de frères nés du même père, de la même mère, qui spolient leur benjamin ou leur aîné, se disputent un héritage ou un amour, se tourmentent, se malmènent, se vendent, se tuent. Alors adopter, c'est sans doute reconnaître le frère ou la sœur comme frère ou sœur. L'accueillir, comme on adopte l'enfant. Et surtout, se conduire en conséquence. L'adoption, n'est-ce pas cet acte d'ouverture du cœur qui rend la fraternité effective? Et donc, ce qu'il faut à toute fraternité pour devenir réelle. Adopter, n'est-ce pas recevoir, garder, être le gardien de son frère, de sa sœur, et donc en vérité, aimé. Mais nous le savons, chaque fois que nous recevons la grâce d'une adoption, à l'envers de la joie, se glisse une inquiétude. Qui suis-je pour en bénéficier ? N'y a-t-il pas erreur sur le destinataire ? Je pouvais tellement la sentir, cette question, à l'instant, en montant les marches qui conduisent à cette chaire, avec effroi, et en me demandant comment j'allais arriver jusqu'en haut. Qui suis-je pour monter ces marches ? Moïse se l'est posé aussi. Dans cette séquence, il n'est pas chez lui. Il n'est jamais chez lui d'ailleurs, Moïse, où qu'il soit. Enfant, il est abandonné, confié au fleuve. Adulte, il vit chez des étrangers. Sa fuite ne le ramène pas à demeure, mais le laisse des décennies sur la route, en plein désert. C'est l'éternel déplacé, Moïse, l'adopté par excellence. Ici, adopté par les Madianites, peuple halogène, et par leur prêtre, qui lui permet même d'épouser sa fille. Il fait ce qu'on lui demande, le berger, fait paître le troupeau d'un autre. Il ne suit pas la route, il fait dévier les bêtes jusqu'au mont Horeb, Sinaï, la montagne de Dieu. À peine arrivé, lui apparaît le messager du Seigneur. Mais ce n'est pas si simple. Le texte multiplie les noms comme un jeu de piste pour nous perdre en chemin. On ne sait pas bien qui ou quoi apparaît. Et d'ailleurs, le messager n'est pas désigné comme celui d'Élohim, Dieu de la montagne dont on vient de parler, mais de quoi ? D'un nom qui manque, un symbole, quatre lettres, comme un carré, imprononçable. Comme présentation, c'est tordu. Que fait l'apparition ? Elle appelle Moïse, par son nom. Là, pas d'équivoque. Moïse répond. Je regrette un petit peu la traduction par « je suis là », car la tradition donne « me voici ». Et j'aime cette réponse. Emmanuel Lévinas, philosophe, a fait de ces mots « me voici » le motif d'une méditation sans cesse reconduite. Et il y a de quoi ? Moïse n'est pas le seul à répondre « me voici » quand on l'appelle. Ils sont nombreux. Dans le livre de la Genèse, Abraham, appelé par Dieu, ou son fils, ou l'ange, Isaac, Ésaü, Jacob, Joseph, dans son livre, Samuel, 6 fois, Achija, Jonathan, le soldat convoqué par Saül, et Mephibosheth, fils de Jonathan. Et dans leurs textes éponymes, Job, le psalmiste, et la lignée des prophètes, Ésaïe, 4 fois, dont une en réponse à la nation qui ne l'appelle pas. Et il se présente, répétant comme dans le vide, « me voici », en face de ce silence. Ézéchiel, Zacharie, Malachie, et dans Ésaïe encore, Dieu lui-même, pour fermer la marche, au temps messianique, quand le prophète l'appellera et l'Éternel répondra, « tu crieras » et il dira « me voici ». On comprend que Lévinas ait eu de la tendresse pour ces mots. Ici se déroule une scène extraordinaire. Moitié cinéma, moitié comédie. Côté cinéma, voyons le décor. C'est dans la montagne, au milieu des buissons. Pas une forêt verdoyante. Le désert n'est pas loin. Les buissons, ce n'est déjà pas mal. En voici un très étonnant. Il brûle, ce qui peut se comprendre, le soleil doit taper, mais ne se consume pas. Phénomène digne de happer la curiosité de Moïse et la nôtre. Ce feu qui brûle sans détruire. se nourrit de sa propre ardeur, laissant intact ce qu'il enflamme, feu sans destruction, feu inextinguible, puisque sa matière tient. Moïse décide de faire un détour pour voir. La caméra le suit. Souvent, il faut faire un détour pour aborder ces choses transcendantes. Le Seigneur, enfin, le tétragramme imprononçable, le voit faire un détour pour voir. Il va être déçu, Moïse, parce qu'il ne verra rien de clair, mais il va entendre. Le tétragramme, drôle de bête dans les dunes, l'appelle. Moïse, Moïse, coucou. Et Moïse alors, me voici. D'emblée, sans attendre, sans délai, sans chicaner, il ne demande pas « qu'est-ce que tu es toi, là ?» comme fait Horatio, par exemple, l'ami d'Hamlet sur les murailles d'Elseneur, quand une étrange apparition se montre aussi. Il dit d'emblée, tout à trac, « me voici ». On l'appelle, il répond. Quelle belle façon d'être. Partagée par cette cohorte de patriarches, de rois, de prophètes au long des textes, d'inconnus aussi, messagers, soldats, expression si intense, « me voici », que je la lis à une posture physique. Là, debout, bras légèrement écartés, mains ouvertes, découvrant le corps sans protection, comme s'il ne s'agissait pas seulement de l'âme, mais du torse, des membres, comme s'il n'y avait pas d'exposition vraie de l'âme sans une ouverture physique. Je m'avance, me présente, m'expose, tel l'enfant qu'on appelle, qui s'avance et répond « présent ». Il s'avance, Moïse. Il voulait voir, mais là, il entend. La foi vient par l'oreille, dit Luther. Maintenant, l'interlocuteur l'arrête. Attends ! N'avance pas trop vite ! Déchausse-toi ! La terre où tu vas marcher est sacrée ou sainte. On dit que le sacré se définit par l'interdit de toucher. Ici, c'est le contraire. Cette terre, parce qu'elle est sainte, il faut y poser la peau. Non la salir de la poussière de ses semelles, mais la palper de la plante de ses pieds et de ses orteils nus. Et voilà que la voix se présente aussi. Question de politesse. On n'appelle pas les gens sans expliquer un peu d'où on sort. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dans cette phrase insolemment célèbre, je n'entends pas en priorité « je suis Dieu » comme une révélation. Qui voulez-vous que ce soit ? Cette parole surgit d'un buisson en flammes qui brûle sans cesse et ne brûle rien. J'entends plutôt « ne t'affole pas, on se connaît, je suis de la famille, je suis celui-là ou cela qu'honore tes pères, tes ancêtres, tous les tiens, rien d'autre. Keep cool. La situation est particulière, mais sous contrôle. » Moïse détourne le visage. Il ne veut plus voir. Entendre passe encore, mais voir, non. Il a compris la leçon de Luther. La vision trompe. À une voix, une bonne voix, familière, aimante, on peut se fier, avoir foi. Il y a un côté Jeanne d'Arc chez Moïse. Mais, comme présentation, c'est court. Et comme explication d'un phénomène si étrange, encore plus. Il ne me suffit pas, semble ajouter celui ou cela que nous appelons Dieu, d'invoquer notre passé commun. Ce qui m'occupe, c'est le présent. Je vois le peuple sous les fers. la souffrance de l'oppression. Je suis venu le libérer. Je suis le Dieu de l'émancipation, de la fin des tortures. C'est ce qui me qualifie mieux qu'aucun nom. Je suis le Dieu qui ne supporte pas l'injustice et les chaînes. Tu vas me les sortir de là. Jusqu'à cet instant, tout allait bien. C'était réconfortant, tonique. Mais le dernier appel complique tout. Maintenant, va, je t'envoie auprès du Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Là, Moïse bloque. Il va faire des histoires. Il est compliqué, Moïse. Il crée des problèmes, des obstacles, soulève des objections. Quelque chose l'arrête. Il lance la question qui fâche. « Qui suis-je ? » demande-t-il, « pour que tu me charges d'une telle mission ?» Alors arrive la scène de comédie. Dieu, au début, reçoit la chose avec calme. Il rassure. Il reprend le ton de la familiarité, de l'ami qu'on connaît bien. Dieu dit « Je serai avec toi ». Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te laisser tout seul, je t'accompagne, je viens avec. Mieux, je te donne des attestations. Voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Cette montagne où nous sommes, que le peuple connaît si bien. Une fois sorti, mais après, voyez le roublard, il faut sortir d'abord, vous viendrez ici. Le peuple sera en terre connue, il te reconnaîtra. Mais tu me les sors de là, presto. Aucune réponse, vous le noterez, à la question de Moïse, qui suis-je ? Ou pourquoi moi ? Commençons de l'apercevoir, cette question n'intéresse pas le transcendant, la transcendance. Il, le transcendant, ou elle, la transcendance, ne lui concède pas un mot. Il passe outre. Pourquoi ? Moïse ne se laisse pas démonter. Il est coriace. Fin dialecticien, il rétorque. Admettons, soit, supposons que j'aille vers les Israélites et que je leur dise, le Dieu de vos pères, bon, j'ai compris, celui de la famille, m'a envoyé vers vous. S'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je ? Moïse retourne la question. Dieu n'a pas voulu répondre sur lui. Moïse, sa qualification, sa propriété. Il renvoie la question à l'envers, l'adresse à Dieu lui-même, lui demande son nom. C'est singulier cette demande, parce que Dieu pourrait sembler avoir déjà répondu. D'abord en disant « Je suis Dieu », ce qui n'est tout de même pas mal, puis en précisant « Celui de tes pères, d'Abraham, Isaac, Jacob, le Dieu connu, le Dieu du peuple ». Si les Israélites ne reçoivent pas ces informations comme suffisantes, serait-ce alors que le nom Dieu, n'est pas vraiment un nom, une identité, au sens où Moïse la réclame et où les Israélites vont l'exiger ? Le nom Dieu, dit-il autre chose que le nom de Dieu ? Et la lignée, la filiation, la tradition du peuple ne suffisent pas plus à satisfaire ce désir de nomination. Pourquoi ? Que lui manque-t-il à Moïse, dont il pense que cela manquera aux Israélites dans ses attributs que Dieu a déjà fournis ? Alors là, Dieu s'énerve. Moïse l'énerve. Et cela se reproduira. Plus bas, le texte indiquera que Dieu, littéralement, se met en colère. Moïse renâcle, rechigne, objecte, tergiverse, refuse, conteste, et tout de même, il y a des limites. Que voulez-vous ? Je ne sais pas si c'est en raison de ma pratique du théâtre, mais la réplique qui vient, je l'entends presque dans la bouche de Rému. « Comment ça ? Qui es-tu ? Je n'arrête pas de te le dire. Ça ne te suffit pas, cabochard ? Je suis qui je suis. » C'est une des fameuses traductions proposées pour ce passage. Et le futur que choisit la nouvelle seconde sonne pareil. quand on te le demandera, je serai qui je serai. On pourrait ajouter « na » pour rester poli. Et puis c'est bon maintenant, ça commence à bien faire. Dieu est lancé. Je suis qui je suis comme ça, il est question de s'en accommoder, et s'il te le redemande, voici ce que tu vas leur dire. Qui t'a envoyé, c'est ainsi que tu répondras aux Israélites, « Je serai m'a envoyé vers vous. » C'est qui ? C'est « Je suis ». Voilà, on imagine la tête des Israélites. Qui t'envoie ? C'est « Monsieur, je suis ». Débrouillez-vous avec ça. Et Dieu réitère, c'est le tétragramme, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour toujours. Ce qui veut dire, si les mots ont un sens, « Je suis cela, rien d'autre, je l'ai dit, je n'en dirai pas plus, il va falloir s'y faire, je suis le fait d'être, l'acte d'être, et de l'annoncer ainsi à la première personne. » Vertigineuse réponse en vérité, car au-delà du refus de donner un nom qui identifie, l'interlocuteur répond que ce qui le définit, c'est cette union du verbe être et de la première personne. Dieu se rassemble tout entier dans cette fantastique jonction, il y a ou il y aura de l'être, et l'être dit « je ». Mais si c'est bien cela que Dieu est, ce fait de dire « je suis » ou « je serai », si c'est ce qui pose et constitue Dieu, alors, pour tout autre, pour n'importe qui d'entre nous, dire « je suis », c'est se confondre avec la position divine. C'est prétendre parler du point de vue transcendant. Si Dieu est « je suis », dire « je suis », c'est se prendre pour Dieu. Peut-être cette frayeur de se substituer au point de vue divin saisit-elle le Christ ? D'abord, il cède à la tentation de questionner l'opinion, au dire des gens, qui suis-je ? Les réponses semblent flatteuses. Personne n'a entendu dire qu'il est un faussaire. Ils lui dirent, pour les uns, Jean le baptiseur, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, un des prophètes. Pourtant, cela ne le satisfait pas. Vous allez dire, bien sûr, ce n'est pas ce qu'il est vraiment, et que nous savons bien, nous qui venons ici chaque semaine. Alors il demande aux disciples, « Et pour vous, qui suis-je ? » Pierre lui dit, « Toi, tu es le Christ. » Voilà la bonne réponse. Tout est dans l'ordre. Et c'est à ce moment, devant cette réponse, que le Christ s'emporte. Il les rabroua pour qu'ils ne disent rien à personne à son sujet. Ce nom, même à le supposer juste, il ne faut pas le répandre. Pourquoi ce secret, quand Jésus va s'exposer jusqu'à la mort, devant tous ? Peur, un instant, de ce qui va suivre ? Je ne le pense pas. Mais accepter le « je suis », quel qu'attribut qui l'accompagne, c'est se placer dans la position de Dieu. À cette demande, plus tard, le plus souvent, il répondra « c'est toi qui le dis ». L'être ne se dit pas en première personne, sauf par Dieu. C'est ce qui le définit, première personne, même de la Trinité. C'est peut-être l'ombre de cette usurpation de point de vue, qui suis-je ? Qu'a senti Jésus et qui l'a fait frémir. On comprend alors, un peu, que le grand interlocuteur laisse pendante la question du nom. Il n'est pas avare de réponse, mais il se refuse à l'identification, au nom propre, tout comme il a laissé en plan la question de Moïse sur lui-même, « Qui suis-je ? » Comme s'il disait « Laisse cela ! » Qui suis-je ? Qui es-tu ? Laisse-le-moi, c'est mon affaire. Disons-le maintenant, peut-être qui suis-je n'est pas pour nous une bonne question. Pas une question sur le vivant, sur la vie, mais une injonction d'identifier, d'assigner une figure. Peut-être cette question est-elle sans avenir, et d'ailleurs sans passé aussi, sans présent vivant. La quête juste n'est pas de s'identifier, mais de vivre, d'entendre l'appel et d'y répondre. En responsable de son écoute, de sa réponse, de sa vie, de son troupeau, d'être le gardien de son frère, de ses bêtes, du peuple et de sa liberté. Peut-être, plutôt que de clamer « Qui suis-je ?» et « Quel est ton nom ?», vaut-il mieux entendre l'appel et répondre « Me voici ». Se présenter, c'est-à-dire être devant. Délaisser l'obsédant « Qui suis-je ?» et ses chicanes pour s'avancer en ouvrant les bras, en desserrant les mains, en présentant le corps dans sa fragilité offerte. C'est pourquoi, lorsque je me demandais tout à l'heure, avec effroi, comment j'arriverais à monter les marches conduisant à cette chaire, et qui suis-je, moi, petit juif du troupeau, pour gravir ces degrés, plutôt que de ressasser la question fausse et au fond pernicieuse, la meilleure réponse était sans doute de me laisser porter, soulever ou élever par le texte que j'avais en main, mais c'était lui qui me tirait le texte, qui me treuillait, jusqu'à me présenter devant vous, chers frères et sœurs, qui me faites la grâce de l'accueil, et devant la transcendance qui nous rassemble, en écartant les bras, ouvrant les poignes, tentez d'entendre avec chacun, chacune de vous, fraternellement, ces mots, ces lignes, ces pages qui nous élèvent, nous font monter. Amen.
Un grand, grand merci, Denis, pour cette prédication. Vraiment, ça dépasse toutes nos espérances, franchement. Donc, oui, un merci pour cet envoi, ce témoignage, cette parole, je dirais, forte, inspirante, intelligente, engagée. Vraiment, c'est avec émotion que je te remercie. Et pour poursuivre cette méditation, Eh bien, nous vous proposons de chanter le choral numéro 1. Donc, c'est à la fin du psautier français, vous avez un petit supplément. Et donc, c'est un choral que nous connaissons bien par différentes musiques de Bach, après la longue attente, après le rude hiver, pour nous placer voilà, dans cette espérance de l'avant. Prendre place pour quelques annonces. D'abord l'annonce qu'aujourd'hui il y a donc un service de Sainte-Cène, de communion, comme une fois par mois. Tout le monde y est invité, tous ceux qui le désirent. Et puis ce n'est pas non plus obligatoire, bien entendu. Et donc on a le droit de manifester ce oui à Dieu qui peut être dit en prenant le pain ou le vin. On peut le manifester de bien des façons dans son existence. Et donc, c'est librement qu'on participe ou non. Alors, à la sortie de ce culte, il y a un temps d'accueil qui est préparé par certains. Et donc, c'est avec reconnaissance que nous pourrons aller donc, dans la salle qui est derrière la grande porte. À la sortie, vous trouverez aussi des aînés qui sont donc habillés en scout. Vous les reconnaîtrez facilement parce qu'ils ont une proposition à nous faire.
Merci, Monsieur Pernaud. Donc oui, dans le cadre de notre projet Scout, on organise une vente de sapins de Noël pour remporter suffisamment de fonds parce que on a un projet humanitaire qui se dessine a priori en Arménie et ça représente une certaine somme d'argent. Donc comme on vous l'a souvent dit, on est disponible pour de nombreux services et cette année on vend des sapins, on sera à la sortie du culte pour répondre à toutes vos questions avec plaisir.
Merci beaucoup. Oui, donc ils vont chercher des sapins à Rungis, je pense, et puis les livres à domicile, ce qui est quand même des fois assez pratique. Donc cet après-midi, voilà, il y a aussi une activité qui a remporté beaucoup de succès. Hier soir, on avait la réunion de prière et il y a plusieurs membres qui ont dit « Oui, c'est génial, il faut y aller ». Et donc c'est en particulier Laurence Tardy, aussi Michel Pourteau et puis toute une petite équipe en fait. qui nous propose d'aller visiter quelques tableaux du Louvre avec des sujets bibliques pour aller au-delà du premier degré et de l'écriture et de la peinture, en fait. Donc, ce qui est prévu, c'est un pique-nique. Chacun vient avec son pique-nique, peut aller aussi le chercher à la boulangerie ou au Franprix qui est derrière, pour avoir ce temps de partage et puis ensuite d'aller donc au Louvre. Alors, bien entendu, ceux qui n'auraient pas la chance d'avoir la gratuité dans les musées doivent prévoir de pouvoir payer l'entrée, bien sûr. Alors, lundi, il y a le grec biblique des progressants. Samedi, il y aura l'hébreu biblique avec Gilles Castelnau. Et puis, il y a le cycle d'initiation à la théologie. Comme deux fois par an, nous avons un cycle de 6 rencontres pour avoir les premières bases. Donc là, on en est à la quatrième tome de cette série en 6 volumes. Donc, c'est lundi soir. Mardi, nous avons philosophie et théologie. Donc, grâce à Denis Guénoun aussi, que décidément, nous exploitons d'une manière, je dirais, indécente. Mais ce jour-là, eh bien, c'est un de ses collègues, Jean-Baptiste Brenet, qui est titulaire de la chaire de philosophie arabe à la Sorbonne, qui va nous parler donc de théologie et philosophie chez Averroès. Alors Jean-Baptiste Brenet est d'une clarté limpide comme du cristal. Donc c'est vrai que c'est une troisième rencontre philosophie et théologie après deux rencontres qui vraiment ont été d'une profondeur remarquable et qui nous permettent de devenir, enfin je parle pour moi, un peu plus intelligent. Donc c'est vraiment une bénédiction là encore. Donc ça c'est mardi à 20h, donc en face, aux 4 rues de l'Oratoire. Jeudi, il y a la répétition du chœur qui recrute toujours. Et puis vendredi, il y a cette vendredi, samedi et dimanche, il y a cet événement annuel important qui est la vente paroissiale au profit de l'entraide. Donc ça commence dès vendredi midi avec une sandwicherie et puis ensuite, eh bien, il y a cette brocante géante. L'oratoire est complètement transformé en un vide-grenier, en une librairie, en une braderie et en un salon de thé et voilà d'autres choses. Donc ça commence vendredi midi, ça continue samedi. Samedi, il y a une particularité, c'est qu'il y a un repas spécial auquel on peut s'inscrire. Et puis, il y a aussi une particularité spéciale l'après-midi du samedi, c'est qu'il y a un studio photo professionnel qui permet d'avoir des photos vraiment professionnelles dans un studio qui aura lieu là. Ensuite, dimanche, l'événement en particulier, c'est qu'il y a un concert de l'avant ou de la vente, les deux en même temps, avec du Bach, du Handel, du Brahms, du Grieg, avec des amis de la paroisse professionnelle, de la musique en fait, ou de niveau professionnel, Isabelle Hureau, Sylvie Jugnot, Constance Luzzati avec l'harpe, Marion Hunal au violoncelle, Gilles Donneau, Jean-Dominique Pasquet, notre organiste, donc avec une libre participation au profit de l'entraide. Il y a 1000 autres choses aussi, vous pouvez prendre les papiers à la sortie sur la table avec les différentes activités qui sont proposées. Bientôt un nouveau bulletin feuille rose de l'oratoire qui va être envoyé, donc vous pouvez laisser votre adresse si vous désirez la recevoir. Maintenant c'est le moment de l'offrande, nous recevons tout gratuitement de la part de Dieu. L'offrande permet de remettre les choses en perspective dans notre existence avec le spirituel aux commandes. nous élevons nos cœurs vers le Seigneur. Seigneur, tu as dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et lui avec moi. Voici les tiens rassemblés devant toi, ô Éternel, nous avons entendu ta parole, nous t'ouvrons notre porte, sois l'hôte de nos vies. Amen. Et voici comment l'Évangile raconte le dernier repas que Jésus prit avec ses disciples. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés ». Et Jésus ajoute cette promesse qui se réalise par l'Esprit. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Nous prions Dieu. Ô Dieu, tu es la source toute proche. À toi de nous donner la vie. À toi de nous nourrir, de nous abreuver, de nous conduire, de nous protéger, de nous éclairer, de nous conserver. À toi de nous sanctifier par ton appel. À toi de nous fortifier et de nous bénir. Tu n'as pas dédaigné de nous appeler ton enfant et même ton enfant bien-aimé. Alors continue à nous soutenir par ton amour et donne-nous ainsi un cœur de chair pour notre frère, notre sœur. Accorde-nous d'être enflammés de ton esprit et d'être ainsi prophète, prophétesse en ce monde, porteur d'une parole qui vient de toi, affermi par ta force et d'en user pour le bien de ceux qui nous sont confiés. Et unis dans une même foi en toi, dans la même consécration à ton service, en communion avec tous les chrétiens, mais même avec tous les hommes et toutes les femmes de par le monde, nos cœurs élèvent vers toi la prière que le Christ nous a confiée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant, mais c'est toi qui as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et ainsi, c'est sans aucune crainte que chacune et chacun peut participer à ce repas en signe de cette volonté de répondre oui à l'appel de Dieu. Alors nous allons nous mettre en forme de cercle dans le centre de cette maison, par tablées successives, donc d'une cinquantaine de personnes. Venez, nous dit Jésus-Christ, venez, car tout est prêt. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été rompu pour nous. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance qui a été répandu pour la multitude. Tu prends les deux coupes. Ne crains rien, dit l'Éternel, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix, en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec chacun, chacune de vous. Allez dans la paix du Seigneur. L'Éternel nous dit, « Ne t'ai-je pas donné ces paroles? Fortifie-toi et prends courage. Aussi ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » La paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, tout ce que l'on peut en dire, gardera vos cœurs, vos pensées, votre être en Jésus-Christ. Allez dans la force que nous donne la paix de Dieu. L'Éternel annonce, « Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous et avec joie encore. » Et effectivement, nous avons vraiment connu que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Nous avons en lui connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui éternellement. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix, de toute force et de tout amour dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Allez, portez par cette bénédiction de Dieu.
Je sais pas.
nous rendons grâce à Dieu avec ce psaume. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. C'est toi qui pardonnes toutes nos fautes, c'est toi qui guéris toutes nos infirmités, c'est toi qui arraches notre vie à la tombe, c'est toi qui nous couronnes de bonté et de miséricorde. Alors oui, je bénirai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Amen. Et nous recevons la bénédiction qui vient de la part de Dieu, bénédiction que Moïse a confiée à son frère Aaron pour qu'il puisse bénir le peuple d'Israël un à un, individuellement. L'Éternel te bénit et il te garde. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Donc bon dimanche à tous. Alors j'ai oublié quand même une annonce, c'est que dimanche prochain, il y a un repas de paroisse en plus du repas de la vente qui est spécial samedi. Vous pouvez vous inscrire aussi à la sortie ou tout au long de la semaine au secrétariat. Encore grand merci à Samantha et à Denis pour leurs paroles, leurs témoignages de vie si forts et si vrais.